Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Les pulsations du monde à travers les marchés, bienvenue à tous, on est à vos côtés jusqu'à 18h avec l'ensemble de nos experts. Tout va bien, tout est serein là sur les indices, sur les marchés. Aude Kersulec nous accompagne, la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Rebonjour Aude, en plus c'est la dernière séance de la semaine, on va entamer un week-end de 4 jours. Et avant ce week-end de 4 jours, bah, c'est une forme de plénitude, de sérénité là qui habite le marché.
Oui, c'est ça, on continue de progresser depuis le début de semaine. Alors c'est assez doux encore hein, aujourd'hui, plus 0,2%, mais tout de même, un peu avant midi, on est allé franchir un nouveau plus haut historique pour le CAC 40 à 8253 points. Et sur le plan psychologique, 8250 points, on les attendait. Donc c'est quand même un signal fort aujourd'hui.
Effectivement, cette barre des 8250 points, elle a été franchie tout à l'heure. Intéressant. Et le CAC 40, sur l'ensemble du trimestre, puisque c'est la dernière séance du trimestre, a gagné 9%. Le S&P lui gagne 10%. Sur le trimestre, beaucoup de signaux prometteurs aussi pour la suite. Alors statistiquement, en plus, on va arriver en avril. Statistiquement, le mois d'avril est le deuxième ou troisième meilleur mois de l'année sur les marchés. Bon, voilà, alors les performances passées ne présagent pas des performances à venir, mais quand même, généralement, avril est un bon mois. Et puis surtout, un signe de la confiance des investisseurs dans le marché actions. On n'observe pas de vente de la part des fonds mixtes actions-obligations, alors que ces fonds, jusqu'à aujourd'hui, pour opérer le rebalancement trimestriel de leur position. Or, depuis le début du trimestre, les actions ont tellement progressé qu'elles ont pris un surpoids important dans beaucoup de portefeuilles par rapport aux obligations. Donc ces fonds pourraient être tentés de vendre un certain nombre d'actions pour rééquilibrer par rapport aux obligations. Mais c'est pas le cas. Personne ne veut vendre ces actions manifestement. En tout cas, si vente il y a, elles ne sont pas suffisantes pour peser sur les marchés qui restent bien orientés. Et ça aussi, c'est peut-être un signe prometteur pour la suite. En tout cas, c'est le signe qui reste une certaine confiance dans le potentiel des actions de la part d'un certain nombre d'intervenants. D'autant que l'économie est au rendez-vous. En tout cas, aux États-Unis, la croissance a été révisée à la hausse, la croissance du quatrième trimestre. Nouvelle révision à la hausse à 3,4%. C'est impressionnant. On aura demain les chiffres d'inflation aux États-Unis, le PCE. Et puis tout à l'heure, on parlera aussi des valeurs qui se distinguent. On tirera un bilan de ce premier trimestre, justement, du côté des valeurs. Et on vous présentera le portefeuille idéal de BFM Business et BFM Bourse. Ce sera à partir de 17h35. Bienvenue à tous. On est à vos côtés. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Si vous avez raté la précédente demi-heure, on évoquait avec John Plassard dans USA Today, on évoquait la campagne présidentielle américaine. On est à 224 jours du scrutin et figurez-vous que pour renflouer ses comptes de campagne, Donald Trump n'a rien trouvé de mieux que vendre des bibles. Oui, Donald Trump se lance dans la vente de bibles, mesdames, messieurs, pour trouver encore un peu plus d'argent pour financer sa campagne. Pour l'instant, Joe Biden a beaucoup plus d'argent dans ses caisses de campagne que Donald Trump, et donc Donald Trump qui se met à vendre des bibles. On en parlait donc avec John tout à l'heure, si vous avez raté le direct, le replay. Le replay est disponible sur notre site bfmbourse.com. Bon, pas la peine de se vouer à tous les saints pour espérer que le marché monte. Il le fait de lui-même et tout seul. Nouvelle hausse aujourd'hui, à vide, hein, c'est vrai, dans de faibles volumes, mais quand même, nouvelle hausse, que ce soit à Paris, à Francfort. On est sur de nouveaux records aujourd'hui en Europe. Aude.
Oui, on continue de progresser doucement. C'est vraiment une semaine au ralenti, mais au plus haut. Hein, puisque, effectivement, après les 8253 points touchés ce matin, on est un petit peu redescendu quand même. 8221 pour le moment, depuis l'ouverture de Wall Street aussi, où on ne progresse pas. On est vraiment sur des indices qui restent autour de l'équilibre. On est dans une séance attentiste aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que demain, il y a la publication du PCE, l'indicateur favori de la Fed en matière d'inflation. Et forcément, ça ajoute un petit stress, surtout qu'on ne pourra même pas l'arbitrer demain, parce que vendredi saint, les marchés, la plupart des marchés occidentaux sont fermés et qu'on rouvrira aux États-Unis lundi et en Europe mardi. Donc voilà pour le calendrier. On aura Jérôme Powell aussi d'ailleurs qui s'exprimera demain. C'est vraiment la totale, alors que effectivement, il n'y aura pas de bourse. En tout cas, on a le dollar qui sera fermé aussi au vu de tous ces événements, on est à un au-dessous du dollar 0,8 hein, pour l'euro-dollar. Et puis sur la composition sectorielle hein, sur le CAC 40, on a les bancaires qui sont plutôt à la hausse, hein, Crédit Agricole, Société Générale ou BNP Paribas qui montrent entre 1,8 et 2%. Juste derrière, Eurofins Scientifique qui là prend la première place du CAC 40 à plus 2,8%. Le Grand tiens, qui a bénéficié d'un relevé de recommandation de la part de Morgan Stanley, plus 1,8%. Tandis que Carrefour, c'est pour le moment la plus forte baisse. Et puis une autre valeur qui n'est pas sur le SBF, qui n'est plus sur le SBF, mais qui est en forte chute. Et pour cause, hein, c'est Casino Guichard Perrachon. Évidemment, on la suit depuis quelques temps. Elle était suspendue hier, le temps que les augmentations de capital se fassent. Vous savez que le groupe est en pleine restructuration financière avec l'arrivée de Daniel Kretinsky, de Marc Ladret de la Charrière et du fonds Atestor. La cotation a repris ce matin. Forcément, il y a une très très forte dilution des actionnaires, ce qui peut susciter quand même la fuite de beaucoup. Donc on est à moins 63%. L'action vaut 4 centimes.
Dur, dur hein, pour les actionnaires de Casino, effectivement, qui a repris sa cotation en plongeant à nouveau. Et Casino, depuis le début du premier trimestre, d'ailleurs, signe le plus fort repli du marché parisien, un repli plus important que celui d'Atos. Là, il y a un concours de difficultés, on va dire, entre ces deux valeurs. Ben, c'est pour l'instant Casino qui, sur le trimestre, recule le plus qu'Atos. Marisol Michel avec nous depuis les bureaux de Swiss Life Banque Privée. Rebonjour Marisol.
Bonjour Guillaume.
En fil rouge avec nous. Ravi de vous retrouver. Marisol, il y a une autre valeur qu'il faut suivre aujourd'hui qui recule, elle aussi, très nettement de quasiment 19%, moins 19%, Soitec, après sa publication. Alors, pourtant, on est dans l'univers des composants électroniques, il y a une forte demande pour les composants électroniques, mais le marché achète tout sauf Soitec, manifestement. Que se passe-t-il? Pourquoi Soitec trinque-t-il à ce point aujourd'hui?
Alors, le secteur des semi-conducteurs est plutôt bien orienté, c'est vrai, mais dans ce secteur, il y a pas mal de segments qui suivent des tendances un peu différentes. Donc, Soitec baisse beaucoup aujourd'hui à la suite donc d'un avertissement sur ses prévisions de résultats pour l'année prochaine. Donc, ils clôturent leur exercice à fin mars. Donc, ils sont pratiquement à la fin de l'année 2023-2024. Ils ont confirmé leurs objectifs pour cette année. Donc, ils n'étaient pas flambants, les objectifs. C'était un chiffre d'affaires en baisse de 10% et une marge d'EBITDA qui va reculer, une marge d'exploitation qui va reculer de 1%. Mais c'est surtout sur l'année qui va démarrer que l'avertissement porte. Donc, le consensus des analystes attendait un fort rebond du chiffre d'affaires, un rebond de 25%. Et en fait, ils ont dit qu'ils feraient une croissance de chiffre d'affaires nulle. Donc, ça, bien sûr, ça refroidit beaucoup les investisseurs et les analystes. Et puis, donc leur marge va légèrement rebondir, mais c'est vraiment la faible croissance, la croissance nulle que les investisseurs retiennent. Ça va conduire, bien sûr, à des révisions très fortes de résultats de l'ordre de 17%, et le titre perd à peu près ça, puisqu'il perd 18%.
Oui, donc, alors, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que cette baisse est quand même excessive?
Est-ce que c'est une occasion?
Voilà, est-ce qu'on est dans les excès ou pas? Enfin, voilà, est à moins 20% quasiment pour Soitec. Ça rappelle un peu EuroAPI, qui a connu des séances encore pires, c'est vrai, Alstom. Enfin, voilà, est-ce qu'on est dans ce genre de sanctions par
d'excès
marché
à la baisse.
Au contraire, c'est rationnel. Comment est-ce que vous voyez le truc?
Alors, moi, je trouve ça assez rationnel, puisque c'est à peu près en ligne avec la révision de bénéfices, comme vous le disiez, qui s'annonce pour l'année qui va démarrer. Et puis, malgré tout, quand je regarde la valorisation même après la baisse, elle reste très élevée, puisqu'on est encore à 29 fois les résultats prévus pour les 12 prochains mois. Donc, nous, ça nous intéresse pas. On reste à l'écart de ce segment. C'est un segment, donc ils font des galettes de silicium qui sont utilisées par l'industrie des semi-conducteurs, mais c'est un segment qui souffre de stocks très importants. Donc il va falloir attendre que le déstockage se fasse. La société nous dit qu'il faudra encore 6 mois, mais ça peut être prolongé.
Mais donc, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à les écouler, ces stocks? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à les écouler, Soitec, leurs stocks?
Ben, ils les écoulent, mais il y avait eu du surstockage dans la période où on manquait de semi-conducteurs, et le déstockage est plus lent que prévu. Donc, ils sont sur un segment, c'est le segment des téléphones portables qui n'a pas encore vraiment rebondi. Les segments intéressants pour nous, c'est les segments de semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. Donc, on est plutôt présent sur ce secteur via les équipementiers de semi-conducteurs, c'est-à-dire ASML, par exemple, qui est le leader mondial de l'équipement de semi-conducteurs, qui a beaucoup monté, mais qui, pour nous, conserve encore du potentiel parce qu'elle a une croissance qui est vraiment très, 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 très forte, avec 30% de croissance annuelle estimée. Donc, c'est une valeur qui vaut 47 fois les résultats, mais très rapidement, vous y retrouvez vous y trouvez votre compte et vous avez un potentiel de croissance qui est important.
Feu rouge hein, sur Soitec. Vous estimez que la baisse du jour, moins 18%, est parfaitement légitime et proportionnée de la part du marché. Voilà, ce titre Soitec qui, sur un an, recule de quasiment 30%. C'est pas brillant, hein, décidément, Soitec. Une autre valeur qui se distingue, bah, alors elle, à la hausse. Et c'est vrai qu'on l'a repéré, on l'a repéré dans le secteur bancaire depuis quelques jours, quelques séances. BNP Paribas qui surperforme encore aujourd'hui d'ailleurs. Le titre gagne en ce moment 1,8%. Pourquoi ces hausses à répétition de BNP Paribas ?
Alors, ce sont des hausses à répétition, c'est vrai, depuis, je dirais, une dizaine de jours, mais qui suivent une forte baisse. Donc, la forte baisse est date de la publication des résultats annuels, hein, qui a eu lieu le 1er février. Et sur sa publication, la société a déçu et elle a perdu 9% en une journée. Donc, on est en train de corriger, là, cette fois-ci, un excès à la baisse, en tous les cas, à mon opinion, qu'on avait commis au moment de la publication début février. Donc, après cette publication et cette chute de 9%, le titre a continué à baisser. Donc, au global, il a baissé d'une quinzaine de pourcents. Et puis, depuis la mi-février, il est en train de rebondir à la suite de l'opinion de certains brokers donc, qui ont confirmé leur opinion d'achat et qui sont revenus à la charge pour dire que le dossier était vraiment très attractif à ces niveaux. Et c'est notre opinion. On trouve que la valorisation est encore très attractive. C'est une société qui vaut seulement 6 fois ses résultats prévus pour l'année en cours. Qui offre un rendement très alléchant de l'ordre de 7%. Je rappelle que le dividende va être payé le 21 mai, donc c'est très bientôt. C'est un dividende qui porte sur 4,60 euros. Donc, grosso modo, vous allez toucher 7% dans je dirais, 2 mois. C'est une société qui est très bien gérée, avec un bilan solide et des perspectives de résultats vraiment alléchantes à horizon 2024-2025. Donc, elle s'est fait injustement traiter. Et là, c'était une occasion d'achat qui est en train de s'amenuiser. Mais pour les prochains... Pour les prochaines années, nous trouvons que le point d'entrée est encore intéressant.
Vous pensez que le secteur bancaire va enfin arriver à s'extirper de cette sous-valorisation chronique depuis des années et des années ? Parce que vous le disiez, le ratio cours sur bénéfice de BNP, il est d'à peu près 6. Enfin, on est sur des cours de crise importante là, sur le secteur financier, alors qu'on n'est pas dans une phase de crise financière. Il y a une forme, de disproportion du marché. Enfin, voilà, comment est-ce que vous voyez la suite ? Est-ce que vous pensez que ce secteur, au-delà de BNP, là, va voir les astres désormais s'aligner pour enfin s'extirper par le haut de cette sous-valorisation, Marisol?
Vous savez, le secteur bancaire, c'est un secteur qui reste cyclique, l'air de rien. Donc, la croissance a été très faible en zone euro ces derniers trimestres. Elle est en train de s'accélérer un petit peu. Donc, on a vu les indicateurs avancés d'activité reprendre un peu des couleurs. Ça reste mollassant, c'est vrai, mais c'est orienté dans le bon sens. Donc, si la croissance reprend, si les baisses de taux se confirment, ça va accélérer les perspectives de croissance et ça devrait être bien pris pour un secteur cyclique comme la banque. Les valorisations sont vraiment très, très basses. Hein. J'ai dit 6 fois pour la BNP, mais les autres acteurs sont dans le même ordre d'idées. Ce que j'aime bien avec la BNP, c'est que c'est une société qui est quand même très, très bien gérée. Ils ont vendu Bankwest au plus haut. Ils en ont tiré plusieurs milliards d'euros. Donc, ils ont annoncé un rachat d'actions de 1 milliard, mais ils gardent à peu près 4 milliards 6 liés à la vente de Bankwest dans leurs livres, qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire des acquisitions ou d'autres retours aux actionnaires. Donc, c'est une société qui est riche, bien gérée, avec un bilan solide. Pour moi, il y a encore du potentiel.
BNP Paribas, qu'on voit, si vous nous suivez à la radio, vous savez qu'on est aussi à la télévision BFM Business. Sur un an, le titre gagne 27% et aujourd'hui, le titre cote 65,86 €. C'est une hausse de 1,8%. Merci Marisol de nous avoir accompagnés en direct sur BFM Business. Aude est toujours avec nous depuis la Tour Euronext. Une autre valeur à ne pas rater aujourd'hui. Aude, le titre, le groupe a publié, c'était hier soir, Trigano, bah c'est encore un succès. Le titre Trigano progresse très fortement aujourd'hui.
Oui, un mot de Trigano, elle est dans le trio de tête du SBF 120 et je vous en parle parce que je sais que vous aimez bien Guillaume Trigano. Ça marche toujours bien, effectivement, après dans son premier trimestre, croissance de 17,2% du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constant. Et ça marche surtout bien pour les camping-cars, là, en hausse de plus 26% parce que on a effacé hein, tous les problèmes de pénurie qu'on avait pu voir au cours de l'année dernière. Et puis, surtout, dans les perspectives, Trigano se dit très confiant et envisage même des opérations de croissance externe. Donc ça fait flamber le titre, plus 9,8% à 162 €, mais ce n'est pas la plus forte progression de l'indice parisien, parce qu'on a devant Vision Group qui la prend 13%. Là, ce sont des résultats annuels qui ont été meilleurs que prévu. Vision Group, c'est l'ancien SES Imago Tag, et Vision Group qui récolte les fruits de son partenariat avec Walmart. L'EBITDA est monté de 75% par rapport à l'année dernière, une marge opérationnelle opérationnel de 12,8%, une génération de trésorerie positive, ce qui lui permet pour la première fois depuis longtemps de distribuer un dividende. Alors, il faut être patient parfois en bourse parce qu'effectivement, la société n'en avait pas distribué depuis 10 ans. Il est de 30 centimes pour une action à 145 euros. Le taux de distribution n'est pas très élevé. C'est surtout symbolique. L'entreprise espère pérenniser ce dividende. Et puis, dans le trio de tête des hausses, on le signale aussi parce que vous êtes nombreux à la suivre, Atos qui prend 5,8% cet après-midi à 1,88€.
Bon, c'est toujours bon à prendre. Effectivement, Aude nous accompagne depuis la tour Euronext. À tout à l'heure, Aude, pour le suivi de cette séance, depuis la salle de contrôle du CAC. Le CAC est en hausse. Wall Street est plus mitigé en ce moment, même si la croissance américaine continue d'éblouir le monde entier. On a une croissance américaine qui a encore été révisée à la hausse pour le quatrième trimestre. On va en parler dans un instant. Croissance américaine révisée à la hausse à 3,4% finalement, alors qu'on l'estimait jusqu'ici à 3,2%. Impressionnante croissance américaine. On suivra demain les chiffres d'inflation aux États-Unis, notamment l'indice PCE, l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed.
BFM Bourse, l'écho du monde.
D'ailleurs, tiens, on pourra parler de cette croissance américaine révisée à la hausse avec Gilles Mouet, qui est avec nous. Gilles, bonjour. Chef bon. Économiste du groupe AXA, ravi de vous retrouver. Avant d'évoquer la dynamique américaine dans un instant, quand même, Gilles, cette question sur l'Europe. Voilà, on est sur la dernière séance du trimestre en bourse. Économiquement parlant, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que, bah, ça y est, la croissance européenne est au plus bas et que les signaux désormais pointent vers une reprise économique, une reprise de la croissance au deuxième ou au troisième trimestre?
Alors, c'est vrai qu'on a quelques indicateurs qui commencent à être un tout petit peu rassurants, ou en tout cas qui indiquent qu'effectivement, on n'est plus en dégradation supplémentaire. C'est le cas, par exemple, en France. La dernière enquête INSEE était plutôt rassurante. C'est vrai aussi, si on regarde les flux de nouveaux crédits à l'économie, on avait un credit impulse extrêmement négatif en 2023 et c'est plutôt stabilisé. Donc, oui, on a quelques éléments comme cela un peu rassurants. J'ai quand même un léger doute sur la qualité de la reprise à venir, parce que on attend toujours la baisse des taux. Elle viendra, je pense, à partir du mois de juin, mais je pense qu'elle sera timide, ce qui veut dire qu'on sera encore dans une orientation de la politique monétaire restrictive. Je ne suis pas sûr que l'impact ait été complet. Je pense qu'il y aura encore des effets retardés sur la seconde partie de 2024, à un moment où la politique budgétaire se durcit un peu partout. On en parle par exemple beaucoup pour la France, avec un focus en ce moment sur 2025, mais psychologiquement, je pense que ça y est, le message est passé. La politique budgétaire se durcit, et ça, c'est quand même pas une nouvelle extrêmement positive pour être dans l'intérieur. Donc, qu'on ait touché un point bas, oui, qu'on puisse compter sur une reprise très franche au cours de 2024, moi, je ne suis toujours pas sur cette ligne-là.
Oui, d'autant que le ralentissement, certes, aura été net, mais on n'est pas entré en phase de grosse récession. Donc, si reprise il y a, ce ne sera pas une reprise cyclique très, très puissante. Si on avait eu une récession ou quelque chose de beaucoup plus puissant, peut-être que le rebond aurait été plus puissant, mais comme ça n'a pas été le cas, on imagine que du coup, le rebond sera lui aussi assez faible.
Alors, c'est pas forcément, j'appelle ça le modèle élastique, hein. Ouais. C'est-à-dire que, comme on a toujours l'impression que si l'élastique a été tiré dans une direction, il faut qu'il reprenne sa forme initiale. C'est pas toujours exactement comme ça que ça marche, mais c'est vrai que, par exemple, lorsque vous avez une récession très profonde, vous savez ce qu'on appelle un nettoyage des stocks. Et lorsque la récession prend fin, eh bien, les entreprises sont bien forcées de commencer à reconstituer les stocks. Et vous avez un effet de rattrapage, un effet de réaccélération en sortie de récession. Et c'est vrai que, comme vous le dites, on n'a pas eu de choc absolument massif. Ces effets de rattrapage par la suite devraient être plus faibles. Et moi, j'insiste vraiment plutôt sur l'orientation des politiques économiques. On va conserver ce qu'on appelle un policy mix, hein, c'est-à-dire l'impact combiné du budgétaire et du monétaire, quand même restrictif sur la totalité de 2024. Et probablement sur une bonne partie de 2025.
Oui, ce qui ne devrait pas aider la croissance à véritablement accélérer, en tout cas pas très spectaculairement. On a eu aussi, alors vous l'avez dit d'un mot, le déficit, le chiffre du déficit français, 5,5%, le déficit de la France augmente à nouveau à 5,5% du PIB. Que vaut-il mieux? C'est le match France-Allemagne là, qu'on vous propose. Qu'est-ce qui vaut mieux, Gilles? Le déficit de la France, mais avec un petit peu de croissance, ou pas de déficit comme l'Allemagne, mais pas de croissance non plus?
Ce qui serait bien, c'est d'avoir ni déficit, pas déficit, un peu de croissance. Mais c'est vrai que dans la situation actuelle, c'est difficile de réussir à combiner cela. Je n'arrive pas véritablement à opposer les deux ou à comparer les deux, parce que ce qui est frappant et frustrant d'ailleurs dans le cas allemand, c'est que cette réduction du déficit en 2024 n'est pas une réduction voulue, c'est pas le résultat d'un choix politique du gouvernement allemand, c'est le choix d'un cadre institutionnel qui est, je pense, devenu de plus en plus toxique avec cette règle sur la dette publique qui est de plus en plus inappropriée. Mais il n'y a pas de décision de la part de Berlin, c'est malheureusement quelque chose qui s'est imposé à eux. C'est vrai que dans le cas français, eh bien, je pense qu'on va retomber effectivement dans cette discussion assez lancinante en France à chaque fois qu'il faut commencer à réduire les déficits, à savoir jusqu'où aller trop loin, c'est-à-dire comment trouver le bon équilibre entre réduire les déficits sans casser complètement la mécanique de la croissance. J'ai l'impression à mon âge maintenant canonique, j'ai l'impression que c'est la cinquième ou la sixième fois que j'assiste au redémarrage de ce débat. Là, on commence à parler de chiffres de réduction du déficit qui commencent à avoir un impact lourd, hein, en termes d'impact conjoncturel. Si on parle de 20 milliards, voire un peu plus d'économies, on est dans l'ordre du 1 point de PIB. Même si on compte sur un multiplicateur faible, ça fait quand même un impact assez lourd sur la demande intérieure. Donc là, je ne suis pas sûr qu'on puisse opposer la France à l'Allemagne, parce que je pense que dans les deux cas, on aura une croissance faible, hein, avec, plutôt une réduction des déficits, mais ce qui est, dans le cas français, probablement tout à fait légitime.
Et c'est comme ça qu'on explique le fait qu'il n'y ait pas de tension particulière sur la France, le fait que le marché semble donner crédit à la France, il n'y a pas d'écart particulier là entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, on est toujours sur 50 points d'écart. C'est cette communication du gouvernement sur sa volonté de réduire les déficits, les 20 milliards d'économies. Le marché donne crédit à la France là?
Alors, ça s'est un tout petit peu réécarté là depuis que le chiffre de déficit est sorti, mais en fait on est toujours un peu en dessous de l'écart de rendement qu'on avait au tout début de l'année. Donc effectivement, pour l'instant, on a un marché qui reste calme. Je pense que c'est ce qui intéresse souvent les marchés, c'est pas tellement la photographie sur l'état des finances publiques en 2023, c'est quelle est l'orientation générale, quel est le message qu'on entend. Et le message, il faut quand même donner crédit de ce point de vue-là au gouvernement, un message très clair. On va vers une politique d'austérité. Je crois que le Premier ministre a prononcé le mot de rigueur hier soir. Voilà, donc on n'est pas du tout dans un gouvernement qui se voile la face et qui ne répondrait pas en fait à ce qui devient maintenant une exigence un peu lancinante, qui est celle de la réduction du déficit et d'une baisse plus accusée de la dette.
Oui, quitte à rogner un peu la croissance. Alors, il y a un pays où il n'y a aucun problème là sur la croissance. Limite, elle est trop forte. En tout cas, on se demande si on... Non, mais incroyable, les États-Unis. D'ailleurs, la croissance du quatrième trimestre a été révisée à la hausse. Elle était déjà très forte. On en a beaucoup parlé, mille fois, de cette croissance américaine du quatrième trimestre éblouissante. Et bien là, elle a encore été révisée à la hausse à 3,4%. Qu'est-ce que ça nous dit là? Enfin, comment est-ce que vous voyez la suite, justement, sur cette croissance américaine? Vous voyez les signaux de ralentissement un peu plus nets à venir ou toujours pas, Gilles?
Là, ça commence un tout petit peu. Enfin, il faut un bon microscope, mais on commence à voir des choses. On a eu des chiffres sur les ventes au détail en janvier-février qui étaient quand même assez mous, voire même très nettement mous. Quand on regarde le message qui nous vient des indices ISM, c'est aussi assez mou. Alors mou, il faut s'entendre. Nous, on rêverait d'avoir ce type de malaise en Europe, mais on se rapproche tout doucement de ce qui est sans doute la croissance potentielle américaine, qui est un tout petit peu en dessous de 2%. Si je prends l'indice de la Fed d'Atlanta, qui cherche en temps réel à donner une estimation de la croissance du PIB en cours, du trimestre en cours, à partir de toutes les infos disponibles, ils sont un tout petit peu au-dessus de 2 et ça a tendance à ralentir, à baisser depuis maintenant 2 ou 3 semaines. Je pense qu'on va peut-être finir le trimestre à quelque chose entre 1,5 et 2. Donc ça commence à s'adoucir, mais c'est effectivement toujours sur des rythmes qui feraient rêver en Europe.
Et du coup, est-ce que l'inflation, le PCE, l'indice PCE, qui est la mesure d'inflation la plus suivie par la Fed, est-ce que l'indice PCE demain, risquant de confirmer la réaccélération de l'inflation, est-ce que vous pensez que la Fed va finalement moins baisser ses taux que le marché l'espère?
Alors, moi, j'ai longtemps été très grognon sur les anticipations du marché. On en a souvent parlé à cette antenne. Je pensais que le marché... Si baisse de taux en 2024.
Je crois qu'on vous a perdu. Il y a de la friture sur la ligne, comme on dit. Ouais, on vous entend plus très bien.
Le marché.
Malheureusement.
À baisse de taux.
Gilles, on vous rappellera. Même, ouais. On vous rappellera, malheureusement, la liaison là est en train de devenir un petit peu plus irrégulière. Mais c'est vrai que demain, l'indice PCE pourrait montrer, confirmer, marquer une réaccélération de l'inflation. Certains de nos experts nous disent on pourrait imaginer la Fed baisser ses taux, même si l'inflation ne revient pas à l'objectif de 2%. Et ce serait dans ce cas peut-être le début de l'abandon implicite de l'objectif de 2%. On va reposer cette question à nos experts tout au long de l'après-midi. On est là, on reste confortablement installés ensemble et on vous accompagne jusqu'à 18h. On va se retrouver d'ailleurs dans un instant, juste après la pause, avec la famille BFM Bourse. Tout va bien, le CAC 40 est en hausse de 0,2%. Et on remercie Gilles Mouek qui nous accompagnait depuis le bureau d'AXA. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et c'est la famille qui se réunit chaque après-midi de 16h30 à 17h. Sabrina Sadghi nous rejoint. Bonjour Sabrina.
Bonjour Guillaume.
Les équipes web de BFM Bourse, bfmbourse.com. Que d'articles aujourd'hui sur
toujours.
Notre site.
Ah,
énormément, très très riche. C'est vrai qu'il y a pas mal d'actualités de marché, même si la tendance est calme, on va quand même le dire comme ça. Calme, mais on a un nouveau record du CAC aujourd'hui quand même.
Exactement. Ouais. Et pour être plus précis, ce record est à 8253,59 points qui a été atteint ce matin. Bon, la tendance est un peu plus calme.
11h09.
À 11h09, voilà, en tant qu'à être précis.
On l'a vécu en direct sur BFM ce matin, donc pour investir avec Lorraine. Ouais, ouais.
Ah, c'était de l'émotion ou pas ?
Oui.
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 Bah, parfait.
Toujours.
Toujours, et donc, petite séance un peu calme. Hein, sur le CAC, il gagne quand même, sur le trimestre, pour l'instant, 9%. Donc, très beau début d'année pour le CAC 40. Bon, là, il y a eu les chiffres du PIB américain qui a été révisé à la hausse. Hein, et donc, ça a fait un peu plouf sur le CAC 40, un peu de calme sur le CAC.
C'est pas rien, là, ce que vous venez de nous dire. La croissance américaine du quatrième trimestre, qui était déjà énorme, elle était à 3,2%, elle a été encore révisée à la hausse, à 3,4%. Jusqu'où ? Incroyable dynamique.
Lié aux dépenses de consommation.
C'est éblouissant. C'est éblouissant ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, effectivement. Les marchés, donc, qui progressent un petit peu, modéré, mais jour après jour, et pierre après pierre, on bat des records. Et effectivement, ça a été le cas ce matin. À Wall Street, on est aussi en petite hausse en ce moment. Et ce qui est peut-être bon signe, c'est que c'est la dernière séance du trimestre aujourd'hui. On aurait pu penser que les fonds mixtes actions-obligations, voulant opérer un rebalancement, un rééquilibrage entre leur poche actions et leur poche obligations, vendent des actions, parce que les actions ont tellement progressé depuis le début de l'année. On voit que c'est pas le cas. En tout cas, si c'est le cas, ça ne suffit pas à faire baisser les actions. Les actions, en cette fin de trimestre, restent solides. Romain Dobry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Comment Bonjour. Sentez-vous Comment sentez-vous en cette fin de trimestre? Donc, dernière séance du trimestre aujourd'hui, les forces en présence dans le marché.
Bien, elles sont complètement absentes. Je ne crois pas avoir vu ça. Depuis l'échéance des marchés dérivés du 15 mars dernier, l'intérêt sur l'Eurostox n'a pas bougé du tout. On avait 2 606 000 contrats futurs ouverts sur l'Eurostox. Et après 8 séances de cotation, il y a à hier soir 2 608 000 contrats futurs. Je rappelle que la moyenne, c'est plutôt 3 800 000 contrats futurs. Ça veut dire qu'au cours des 8 dernières séances, aucun intérêt ne s'est construit, n'a été ouvert. C'est-à-dire que alors que l'Eurostox a progressé de plus de 2%, de 25% sur les cours actuels. Donc cette hausse-là, elle semble peu étayée et je ne crois pas avoir vu ça depuis très longtemps. Ça veut dire que tout ça se fait avec des volumes faibles aussi. Ça signifie que la zone en question est fragile. C'est une zone de 2%. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de drame, mais elle pourrait être effectivement revisitée dans les jours qui viennent. Encore une fois, on n'a pas de figure de retournement baissière, mais un marché qui flotte un peu, qui n'a pas soutenu, pas étayé. Puis on voit cette sortie ce matin sur l'indice CAC 40 qui ne se confirme pas. Alors, on a un peu de rotation sur des indices et puis des équilibrages qui se font. On le voit au sein de certains secteurs, mais il n'y a pas vraiment d'éléments forts. D'autant plus qu'effectivement, demain, on aura donc les chiffres de l'inflation, l'indice PCE. Puis une semaine prochaine qui va être riche aussi en publications. Il y aura déjà dimanche des publications de PMI, des directeurs d'achat en Chine, et puis des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis la semaine prochaine. Tout ça sur fond de PMI en Europe et aux États-Unis aussi. Donc, un programme riche à venir et pas beaucoup de drivers. On reste un tout petit peu circonspect à court terme, encore une fois, sur une hausse qui a du mal à être étayée.
Je sens que vous avez le vertige là, après cette hausse incroyable des marchés depuis le début de l'année, Romain. Je voudrais vous rassurer. On arrive au mois d'avril. Statistiquement, avril est le deuxième meilleur mois de l'année sur les marchés. Et par ailleurs, Wall Street, Romain, vient d'enchaîner 5 mois de hausse d'affilée. Le S&P 500, là, sur le trimestre, aura gagné 10%. Et donc, on est sur un 5e mois de hausse d'affilée. Quand ça arrive, généralement et en moyenne, le S&P gagne dans les 12 mois après une série de 5 mois de hausse. Il gagne dans les 12 mois suivants encore 12% supplémentaires. Bon, bah c'est plutôt de bon augure quand même, Romain.
Alors, c'est complètement de bon augure, et c'est pour ça qu'on reste juste circonspect à court terme. Il faut se rappeler du scénario octobre 2022, avril 2023, et qui est exactement le même qu'on vit pour l'instant aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis octobre, on n'a pas arrêté de monter, et après, on s'est un peu ennuyé sur les indices européens. Donc, c'est de bon augure. Ça reste, à mon sens, haussier. Il n'y a aucune invalidation, aucune figure de retournement. On voit que ça craque un petit peu sur l'indice Nasdaq depuis quelques séances maintenant qu'il y a plus de mal, les cotations sont un peu désorganisées. Et puis, encore une fois, sur l'indice CAC 40, on n'aime pas tellement ces fausses sorties par le haut et puis retracement de presque d'un demi pour cent à l'heure qu'il est par rapport au point haut. On essaye de déborder le trading range qui était 8146, 8242, et puis on le réintègre un peu brutalement, doucement, sans accélération, mais on n'arrive pas à s'extraire par le haut de ce niveau-là pour l'instant. Encore une fois, à la veille d'un rendez-vous important. Alors, si on arrive à déborder 8242, la cible, c'est 8338 sur le futur. Si on recasse 8230, on est juste au-dessus pour l'instant, eh bien, on a des chances de revenir au milieu du range, 8194. Le bas du range, c'est 8146. Le risque, c'est une consolidation un peu marquée si on accélère pour aller chercher une zone 7982, 8054. Vous voyez, je ne m'inquiète pas beaucoup, mais il faudrait, à mon sens, un petit trou d'air, un petit élément pour redonner un moteur, un peu d'énergie à ce marché qui en manque en réalité, et les cotations sont un petit peu désorientées sur l'indice CAC 40 notamment.
Oui, le marché est un petit peu courbaturé là, voilà. Il a besoin d'oxygène un petit peu, le marché, et peut-être d'une respiration. Ouais. Du côté des valeurs, vous avez repéré un titre, là, une valeur de la cote à Paris qui, à vos yeux, présente un potentiel technique intéressant. Ce titre, c'est Eurofins, Romain.
Et oui, Eurofins, elle accumule dans une zone et au-delà d'un support majeur à 53,60 depuis maintenant 4 mois. Elle est en train d'essayer de déborder un niveau de résistance important qui est à 59, et elle sort d'un canal baissier au sein duquel elle évoluait depuis juillet 2022. Alors elle en sort très timidement, il va falloir confirmer ça en clôture, mais ça peut être un point d'entrée pour un titre qui est vraiment très en retard et qui effectivement est stable dans un marché pour l'instant qui est aussi, en ligne avec un marché stable, mais avec une perspective de hausse qui pourrait l'emmener rapidement à 65,90. Puis on pourrait chercher des extensions au-delà en direction de 70,30, pourquoi pas. Sous 53,60, le mouvement serait quand même invalidé.
Romain Daubry, qu'on retrouvera à la clôture des marchés aussi tout à l'heure à 17h35, puis de Bourse Direct à tout à l'heure, Romain. Alors le CAC 40 est en petite hausse après le record de tout à l'heure, on le rappelle, ce record, au-delà des 8250 points. Mais depuis, on s'est un peu assagi, on ne gagne plus que 0,1% à la Bourse de Paris. Il y a une valeur qui souffre beaucoup, c'est Soitec, qui a publié ses résultats. Sur les stocks, notamment de Soitec, posent question là.
C'est ça, oui.
Ils ont du mal à écouler leurs stocks, Soitec, Sabrina. Moins 18%, c'est pas rien. Et c'est justifié, c'est ce que nous disait tout à l'heure Marisol Touraine. Marisol Touraine, qu'est-ce que je raconte? Marisol Michel, Marisol Touraine, c'est une femme politique.
Oui.
Bonjour à tout le monde. Enfin voilà, bref, Marisol Michel pour Swiss Life Banque Privée qui nous accompagne régulièrement. C'est pas la première fois que je me trompe et elle m'en veut en plus à chaque fois. Donc Marisol Michel qui nous disait la baisse de Soitec de 18%, elle est parfaitement justifiée. Mmh. C'est ce qu'elle nous disait à 16h pour ceux qui voudraient comprendre pourquoi. Le replay est disponible sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Et puis on vous interroge aussi sur nos réseaux sociaux. Chaque jour, vous pouvez nous rejoindre sur notre fil X BFM Bourse ou encore notre fil LinkedIn. Les cloches sonnent. On est à quelques jours de Pâques. C'est la question Pascal du jour sur nos réseaux sociaux. La question du jour nous mène aux résurrections boursières. Ben oui, c'est Pâques. Écoutez la question.
Parmi les valeurs crucifiées ces temps derniers, laquelle ressuscitera? Casino, Atos, Orpea, Euroapi.
Laquelle ressuscitera quelques jours de Pâques parmi ces grandes valeurs crucifiées du marché ces derniers temps, ces temps derniers?
Temps dernier.
À vos yeux, laquelle pourrait remonter, Sabrina?
Les miracles, ça peut exister et je crois en la résurrection d'Orpea. Alors pourquoi? Parce qu'on le rappelle, le groupe a été sauvé de la faillite par la Caisse des dépôts en fin d'année donc a restructuré son bilan au prix d'une lourde dilution pour les actionnaires, on le rappelle. Et pour parachever ce renouveau, le groupe est sorti de la zone des penny stocks, ces petites valeurs qui valent moins d'un euro. Et maintenant, le groupe aussi a changé nom pour tourner la page de deux années difficiles en Emeis, qui veut dire nous en grec ancien. Donc le groupe a publié un chiffre d'affaires en hausse en l'an dernier, a bénéficié d'une amélioration du taux d'occupation, très bien jusqu'à là, mais pas en France, puisqu'en France, il faut retrouver et redonner un peu confiance. Mais dans le cadre de sa restructuration, le groupe a déjà annoncé des objectifs chiffrés pour 2026. Par exemple, le groupe table sur un chiffre d'affaires de un peu plus de 6 milliards d'euros, un taux d'occupation supérieur à 90%, et sa mesure phare de rentabilité est attendue à un peu plus d'un milliard d'euros. Ah oui. À cet horizon, surtout que la gestion du grand âge, c'est de la dépendance nécessaire. aussi des infrastructures, des ressources et des besoins, d'autant plus que 15% de la population française aura plus de 75 ans en 2040 contre 6% il y a 30 ans.
Répétez ce chiffre, c'est incroyable. Le vieillissement de la population française, allons-y.
15% de la population française aura plus de 75 ans en 2040 contre un peu moins de 6% il y a 30 ans.
Et on en fera partie. Enfin, 2040, non.
2040,
non.
Non, on en fera un peu de marche.
Non, non, pardon. Non,
on a
un
peu de marche.
Je m'emballais un petit peu. Mais par contre, de l'autre côté, en régie, il y en a peut-être un qui.
Ah oui.
Fabien, qu'on salue de l'assistance. C'est une émission donc intéressante. Aujourd'hui, à quelques jours de pas, quelle valeur en bourse crucifiée par le marché pourrait ressusciter ? Vous votez Orpea.
Orpea, oui.
Ouais, Frédéric Rosier tout à l'heure était avec nous. Il vote lui aussi Orpea. On vous propose de réécouter cette question qu'on vous pose donc sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à continuer de répondre. On va d'ailleurs vous faire part dans un instant de l'ensemble de vos réponses. Comment vous, auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, avez-vous voté d'abord la question, parce qu'elle est quand même spirituelle aujourd'hui. Allons-y.
Parmi les valeurs crucifiées ces temps derniers, laquelle ressuscitera ? Casino, Atos, Orpea, Eurohappy.
C'est apaisant.
Laquelle ? Vous êtes une majorité à voter Orpea, 44% sur nos réseaux sociaux, comme vous Sabrina.
C'est tranché.
44%, large majorité donc pour Orpea. Devant qui ? Devant Atos à 24%. Résurrection attendue d'Eurohappy à seulement 17% et seulement 15% pour Casino. Et l'un de nos auditeurs sur nos réseaux, justement en commentaire, on vous lit, n'hésitez pas, et on rebondit sur vos commentaires, nous dit, vous auriez pu ajouter Worldline dans votre liste des valeurs crucifiées. Il a raison, il y avait Worldline, mais on n'a pas la place parce que sur X, on peut mettre que 4 lignes. Donc,
on en aurait mis beaucoup plus.
Voilà, si Elon nous écoute, n'hésitez pas parce que là, pour le coup, il y avait l'embarras du choix. Effectivement, pour parler de ces valeurs en grande difficulté. Alors, il y en a une que vous aimez beaucoup. Et elle cartonne.
Oui.
C'est l'un des miracles boursiers, pour le coup. Encore quelques publications aujourd'hui. Et il y en a une qui se distingue. Vusion Group, qui enchante une nouvelle fois les marchés. Avec, aujourd'hui, plusieurs annonces positives. Il fait quoi, ce titre ? Il gagne 10% à l'instant. Il marche sur l'eau, ce titre.
Il marche sur l'eau. Hein, c'est pas un miracle. Hein, mais c'est le fruit du partenariat avec Walmart. Hein. Donc, on le rappelle. Hein, Vusion Group, c'est le nouveau nom d'SOS Imagotag depuis janvier 2024. Et il a réussi son rendez-vous avec le marché. Le groupe a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes sur tous les points. On avait déjà un petit aperçu en janvier. Le groupe avait publié des revenus en forte hausse, de 30% à 802 millions d'euros, ce qui est conforme aux attentes du groupe. L'an dernier, le groupe a fait le plein de contrats, dont le plus emblématique est celui signé avec le géant américain Walmart pour approvisionner ses magasins. Les prises de commandes mondiales témoignent donc de ce dynamisme et sont proches du milliard d'euros en 2023. Vusion Group est donc entré dans une nouvelle dimension, ce qui a aussi profité au reste du compte, des comptes du groupe. La rentabilité s'envole de 81%, le bénéfice net aussi sur un an. Et autre bonne nouvelle, le groupe a généré de la trésorerie là où le groupe en consommait l'année dernière, en 2022. D'ailleurs, le groupe va récompenser ses actionnaires en leur versant, certes, un dividende symbolique de 30 centimes, hein, oui. Mais c'est déjà un dividende. Hein, et le groupe réactive sa politique de dividende qu'il avait abandonnée depuis presque plus de 10 ans.
Quand on réactive une politique de dividende ou qu'on l'active tout simplement, c'est souvent un grand signe de confiance dans l'avenir.
Un énorme signe de confiance, effectivement.
Parce qu'on ne crée pas une bonne surprise une année pour mieux décevoir l'année suivante. En tout cas, on essaie d'éviter généralement.
C'est
donc
ça.
Sans doute un signe de confiance de la part des dirigeants de Vusion Group, oui. L'ex-SES Imagotag.
Qui a changé plusieurs fois de nom depuis sa création en 1992.
C'est fatigant d'ailleurs. Perspective. Non, mais c'est vrai. Et puis il y a Plastic Omnium aussi qui change de nom.
Ah oui, OP Mobility. Enfin, c'est mieux Plastic Omnium.
Ouais, mais il y a plastique dedans, donc c'est un petit peu plus compliqué maintenant. Ouais. Voilà. Les perspectives de Vusion Group, comment est-ce que vous les jugez ? Elles sont positives ?
Et oui, elles sont positives. Le groupe prévoit toujours de viser le milliard d'euros de facturation en 2024. La confiance du groupe est étayée par une montée en puissance aux États-Unis avec le contrat Walmart, mais aussi d'autres contrats engrangés dans le pays. Surtout, le groupe donne quelques indications sur sa rentabilité. Vusion Group anticipe une marge d'EBITDA juste en croissance de 0,5 à 1 point de pourcentage en 2024. D'ailleurs, Odo BHF apprécie cet effort, ce qui témoigne, selon le bureau d'études, d'une très bonne visibilité sur l'activité et aussi davantage de maturité sur son modèle économique. Et à noter un petit truc, le groupe avait d'ailleurs avancé cette publication à mercredi soir au lieu de jeudi soir pour éviter que cette belle publication passe inaperçue.
Vusion Group gagne donc 10% en ce moment sur le marché parisien, l'une des valeurs à ne pas rater. Vous y consacrez un article, Sabrina, sur notre site
BFM Bourse ? Bien sûr.
Oui, il est disponible, ça y est ?
Il est disponible.
D'accord, on peut le consulter. N'hésitez pas, vous tous qui nous suivez, bfmbourse.com. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,1%. En ce moment, et on a une bonne nouvelle à vous annoncer, le mois d'avril qui arrive. Le mois d'avril en bourse est généralement un bon mois, c'est
en moyenne, le deuxième meilleur mois de l'année. Bah, on espère que ce sera encore le cas cette année. Mais tout de suite, voici venue l'heure du bullshitomètre. Il est 16h45, on est ensemble en direct. Bertrand Puif nous rejoint, Bertrand Puif pour Fidelity. Parce que chaque jour, c'est vrai, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue ou les effets de mode. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Beaucoup d'OPA là, sur les titres et moyennes valeurs depuis quelques mois et globalement le rythme des fusions-acquisitions à l'échelle mondiale tend à réaccélérer. Alors, beaucoup s'en réjouissent en estimant que les fusions-acquisitions créent de la valeur en bourse. Vous, vous n'êtes pas d'accord, vous dites même « bullshit ». Vous foudroyez l'idée que les fusions-acquisitions créeraient de la valeur en bourse.
Alors oui, c'est une statistique, hein. Il y a une fusion sur deux qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que déjà, elle n'atteint pas ses objectifs de synergie.
Hein. Oui.
Et quand on regarde même sur plus longue période, hein, sur 25 ans, il y a des études qui ont été faites entre les valeurs qui ont plutôt tendance à faire beaucoup d'acquisitions et celles qui ont plutôt tendance à en faire peu, bien la performance est la même. Donc en fait, ça n'apporte pas sur le long terme un panier, hein, encore une fois, de valeurs. Par contre, quand on sélectionne la mauvaise, là, on peut vraiment perdre beaucoup d'argent. Et on a...
Mais attends, incroyable. Non, mais vous démarrez très fort. 50% des fusions-acquisitions, la moitié ne crée pas de valeur.
Tout à fait.
Un peu comme les mariages, hein. Ça se solde sur des divorces, hein. Sur deux. Hein.
Pas mal. Non, mais la comparaison est intéressante.
C'est intéressant. Bon, ouais. Mais après, c'est vrai que quand on regarde un petit peu des cas d'école, hein, bon, alors c'est vrai que ça fait longtemps, mais Carrefour Promodès, Lafarge Blue Circle est plus près de nous, Daimler Chrysler, ça n'a pas marché. Ou Ericsson Vonage, qui était une des plus grosses acquisitions dans le domaine de la tech. Hein. Ericsson avait racheté donc en 2022 pour 6 milliards une société dans le cloud. Hein. Quand on dit cloud, on est en multiple de chiffre d'affaires, on n'est plus en, voilà, en multiple de profit. Mmh. Eh ben, 18 mois après, ils ont déprécié la moitié, 3 milliards. 3 milliards de destruction de valeur sur une capitalisation boursière de 25. Et plus proche de nous, Ingenico et Worldline. Hein, donc ça, tout le monde connaît un petit peu la problématique. Hein, fusion à quasiment 9 milliards d'euros en 2020, et qui a été vendue deux ans après. Donc la partie Ingenico à 2 milliards 3 à Apollo. Donc là, c'est quand même 6 milliards de moins. Et puis Siemens Gamesa aussi, hein, 25 milliards en 2020, qui aujourd'hui valent 13 milliards.
Donc, 50% des fusions acquisitions ne créent pas de valeur. Pourquoi autant d'échecs? Pourquoi un taux d'échec si élevé?
Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un biais un peu euphorique, où en fait, ces fusions, ces acquisitions, elles se déroulent plutôt en haut de cycle. Haut de cycle économique, haut de cycle boursier. Ouais. Et c'est là où, en général, ces sociétés-là ont accès à des financements. Donc, ça se fait pas au meilleur moment en termes de valorisation. Plutôt même au plus mauvais moment.
C'est pour ça que souvent, quand on interroge les experts, en disant « Ah, les fusions acquisitions accélèrent », elles nous disent « Oui, c'est peut-être le signe qu'on est au haut de cycle ».
Voilà, tout à fait. Ouais. L'autre élément, c'est un peu le biais qu'on appelle en anglais « empire builder ». C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dirigeants de sociétés qui veulent grossir. Et souvent, d'ailleurs, ils sont payés à la taille, hein, parce que évidemment, ils seront rémunérés plus en tant que PDG d'une société deux fois plus grande qu'une société deux fois moins grande. Oui. Donc, il y a ce biais-là. Il y a évidemment les banquiers d'affaires qui proposent des dossiers, et eux, ils sont pas du tout incentivé sur la création de valeur, hein, c'est plutôt sur la taille, là encore une fois, du deal.
Il y a aussi des opérations qui financièrement sont rationnelles, dont le timing est bon, mais qui échouent parce que, tout simplement, fusion-acquisition, il faut que les gens s'aiment bien. Est-ce que parfois ça marche pas, il n'y a pas de création de valeur juste parce que les gens ne s'aiment pas?
Voilà, on peut penser, choc culturel, Daimler, Chrysler. Vu que le choc entre des Européens, des Allemands et puis donc les Américains donc dans le domaine donc automobile a été très compliqué et s'est soldé par un divorce qui a été assez destructeur de valeur pour les actionnaires. À l'inverse, il y a quand même effectivement donc un point positif, hein, il y a des business models, des sociétés qui sont cotées en bourse dont le business est justement donc une partie importante et de faire des acquisitions, mais c'est plutôt les sociétés qui font des acquisitions de taille moyenne. Par exemple, Bureau Veritas fait de manière très régulière des acquisitions de taille moyenne ou des petites acquisitions, et de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Si on en surpaye une, parce qu'on est au pic du cycle, on en continuera à en faire quand on est en bas de cycle, donc en moyenne. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus téléperformance aussi, en dehors de la problématique sur l'intelligence artificielle.
Oui.
Avec ce business model-là pendant 20 ans.
Hein. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas de fatalité. Il existe un mode d'emploi pour qu'une fusion-acquisition crée de la valeur. Qu'on peut donner comme ça, proposer à ceux qui nous suivent et qui nous demandent régulièrement, en tant qu'investisseur particulier, comment profiter de la création de valeur liée aux fusions-acquisitions? Est-ce qu'on peut leur apporter justement une forme de mode d'emploi pour parvenir à repérer, détecter celles qui créeront de la valeur et bien les aider à distinguer ces fusions-acquisitions-là des autres?
L'élément fondamental, c'est évidemment la valorisation. Et il faut prendre la valorisation. Alors évidemment, les multiples qui sont payés, qu'on compare à ceux de la société qui achète. Hein. C'est-à-dire que si vous achetez, si vous êtes valorisé à 10 fois et que vous achetez une société à 15 fois, bon, déjà, attention, warning. Donc à partir de là, on va aller regarder les synergies. Donc si les synergies permettent de justifier donc, un multiple plus faible que le 15 fois, hein, puisque ça vient en négatif de ça, vous regardez à peu près à combien vous tombez. Et l'idée, c'est vraiment de comparer par rapport à son propre multiple. Si avec les synergies, vous descendez en dessous de votre multiple, l'opération elle va créer de la valeur. Si effectivement, encore une fois, ces synergies sont délivrées, hein, là encore, il faut qu'elles le soient, hein, dans 50% des cas, elles ne le sont pas. Mm-hmm. Mais si, même après un retraitement des synergies, vous avez un multiple qui est plus élevé que le vôtre, techniquement, ça va être compliqué de créer de la valeur. Et honnêtement, au pic de cycle, on a beaucoup de cas comme ça. Hein.
Et on le voit, hein, dans les ESN, y a beaucoup, c'est vraiment un secteur qui est phare en ce moment avec Micropole, S2I. Et alors, pas forcément dans les ESN, mais dans quel autre secteur on peut voir justement d'autres opérations de ce type?
Oui, et créant de la valeur.
Créant de la valeur, bien évidemment.
C'est vrai qu'en général, je le disais, les sociétés de services, les bureaux Veritas, les téléperformances, ça marche pas mal. Mmh. Il y a des sociétés de niche aussi. Dans les pays nordiques, en Suède, vous avez pas mal de sociétés qui sont cotées. Il y en a une qui fait quand même 10 milliards, personne ne connaît, qui s'appelle Lifco, qui est spécialisée dans le rachat de petites sociétés de démolition. Des sociétés, voilà, exact. Donc c'est des sociétés, vous avez 10-15 personnes, mais ils en rachètent des centaines par an dans le monde, et donc c'est facile à intégrer, elles sont petites, il y a des synergies évidentes, rapides, en termes donc de mise à disposition d'une direction financière, voilà, d'une puissance d'achat sur le matériel, et donc cette société-là, ben, aujourd'hui, elle vaut 30 fois les profits. Et ça lui permet d'acheter ces sociétés, ces petites sociétés, à moins de 10 fois. Donc instantanément, même si vous vous trompez sur le montant des synergies, vous créez de la valeur. Mmh. Voilà. Donc il faut aller chercher des sociétés de niche, soit effectivement dans des niches industrielles, soit
dans
des briques technologiques, ou des sociétés de services. Là, on peut aller chercher des tailles plus importantes, comme ce que fait effectivement, encore une fois, Bureau Veritas ou Téléperformance.
Bon, alors est-ce que vous, en lisant dans votre boule de cristal, vous pourriez nous dire quelles entreprises vont réaliser des fusions acquisitions créatrices de valeur dans les prochains mois? Est-ce que vous avez une idée déjà? Pour ceux qui nous suivent, qui nous demandent souvent des clés d'anticipation, Bertrand.
Alors, je pense qu'il faut regarder Edenred, par exemple, hein, qui est une société intéressante. Je pense que c'est un secteur qui reste très intéressant en termes de consolidation. Hein. On a un concurrent aussi qui s'est coté. L'idée, c'est vraiment de consolider, hein, puisque vous savez que toutes les sociétés, les grandes sociétés, ont des programmes de fidélisation et de leurs employés, salariés, exactement. Et donc, elles sont dans une phase plutôt de vente. Et donc, vous pouvez racheter, effectivement, le business de Total, le business d'une grande société, d'AXA, je dis n'importe quoi, hein, mais juste pour donner des idées, et les intégrer. Et donc ça, effectivement, vous avez une plateforme, vous intégrez ça sur votre plateforme, et tout de suite, ça crée de la valeur. Voilà. Et vous avez des sociétés comme Edenred qui sont vraiment au fait de ça, ils font ça depuis 10-15 ans, donc ils savent voir ce qui est risqué, ce qui ne l'est pas. Ouais. Et là, encore une fois, on parle de petits deals, hein, par rapport à eux. Mmh. On n'est pas en train de dire qu'ils vont racheter quelque chose qui fait un tiers de leur valeur.
Et quand on est actionnaire particulier, il faut se méfier des fusions-acquisitions décidées par les États. On pense à Air France et KLM, par exemple. Est-ce que ça a créé beaucoup de valeur? Je ne sais pas. Enfin, en bourse, le titre Air France-KLM est au plus bas historique, quand même. Là,
voilà,
là,
mais ça a pas
dans un contexte de reprise du trafic aérien, hein. C'est pas
terrible. Regardez aussi Gemalto et Thalès. Hein, quand Gemalto a été... voilà, il y avait des risques qu'il se fasse racheter par des étrangers. L'État a mis la pression sur Thalès pour qu'il rachète Gemalto. Bah, deux ans après, il y a eu une dépréciation d'actifs significative dans les comptes de Thalès. Voilà, donc bon.
Ouais. Les fusions-acquisitions sont créatrices de valeur? Pas du tout. Bullshit, c'est ce que vous dites au marché. 50%, donc ce chiffre que vous nous proposez avec vos équipes chez Fidelity, 50% des fusions-acquisitions ne créent pas de valeur. Vous restez avec nous, Bertrand?
Avec plaisir.
La famille se poursuit, il nous reste 3-4 minutes à passer ensemble. 16h53, voici venu le Factor X. On vous suit sur les réseaux sociaux, notamment sur X, mais aussi sur LinkedIn. Et chaque jour, on sélectionne les postes à forte valeur ajoutée. Alors, on va rester dans la thématique de Pâques, à quelques jours de Pâques. Le pont approche après un long week-end qui se profile donc de 3 jours. Eh ben, on va parler du pont, mais du pont de Baltimore, en l'occurrence. Mmh. Voilà, pardon pour le jeu de mots, ce pont. Donc, situé à Baltimore, aux États-Unis, qui s'est effondré, percuté par un porte-conteneur. C'est Bloomberg qui a publié ce tweet, c'était ce matin. D'après l'agence Bloomberg, cet accident maritime sera peut-être le plus coûteux de l'histoire. L'effondrement de ce gigantesque pont de Baltimore pourrait coûter des milliards de dollars engloutis, en l'occurrence. Sabrina.
Des milliards, a priori 4 milliards, hein, selon les analyses de Morningstar. Hein, ce serait battant le précédent record qui revenait à la catastrophe du paquebot de croisière de luxe Costa Concordia en 2012, hein, qui a été survenu en Méditerranée Ouais, c'était dramatique, hein, un bilan humain tragique, dont le coût final était évalué à 1,5 milliard d'euros aussi pour l'économie locale. Hein. C'est vraiment dramatique. Hein. C'est l'un des ports les plus fréquentés des États-Unis. En 2023, 52 millions de tonnes de marchandises étrangères ont transité via ce port, ce qui représente un montant d'un peu plus de 80 milliards de dollars. Et la fermeture du port aussi, pendant un mois, pourrait entraîner une perte totale de 28 millions de dollars pour l'État du Maryland, hein, là où est situé ce port. Mmh. Et toujours, selon l'analyse de logiciel Implant, cité par Reuters, la reconstruction du pont pourrait coûter 600 millions de dollars en première estimation. Donc, c'est des chiffres assez
gargantuesques. De l'argent englouti, ça coûtera cher aux assureurs et aux réassureurs également. Voilà ce chiffre incroyable publié par Bloomberg tout à l'heure. L'impact, et c'est le cas de le dire, de ce porte-conteneur, en l'occurrence, contre le pont de Baltimore dans l'état du Maryland aux États-Unis. Un autre chiffre fort qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, c'est Yannick Lopez qui nous apporte ce chiffre. Bonjour Yannick. Ah, on va l'appeler dans un instant. Pour OFI Invest AM, ce chiffre, il concerne bien le montant que le Trésor français doit encore lever d'ici la fin de l'année sur le marché de la dette. 215 milliards d'euros qui doivent encore être levés, figurez-vous, mesdames, messieurs, avec un déficit français déjà en hausse, hein, à 5,5% du PIB. Ben, on va voir à l'occasion de ces levées de dette importantes annoncées encore et attendues d'ici la fin de l'année, si la demande est toujours là et si la France emprunte à des taux toujours amenés à progresser. Vous pensez qu'effectivement, plus le temps passera et plus les taux français finiront par progresser, ou au contraire, la France continuera d'attirer une demande suffisamment forte, Bertrand, pour éviter de voir une flambée des taux?
Je pense, hélas, qu'il est inéluctable que les taux montent. La question, c'est est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à une crise équivalente à la crise qu'on a connue en 2012 dans la zone euro, hein, avec des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui avaient quand même de sérieux problèmes. Malheureusement, on est en train potentiellement de revivre ça à moyen terme. Hein.
Yannick est avec nous, Yannick Lopez pour OFI Invest AM. Donc ce montant que la France doit lever encore, 215 milliards d'euros. Bonjour Yannick, c'est ça?
Bonjour.
215 que la France doit encore lever d'ici la fin de l'année sur le marché?
Oui, exactement. Selon le programme estimé, c'est encore 215 milliards que les investisseurs vont devoir absorber entre maintenant et la fin d'année. Le Trésor français a été actif déjà depuis le début de l'année, puisqu'il a déjà réalisé environ un tiers de son programme. Il a levé un peu plus de 100 milliards. Principalement sur des échéances qui s'étalent entre du 5 ans et du 10 ans. Et c'est un petit peu plus rapide que ce que le Trésor français avait fait l'année dernière à la même époque. On est un tout petit peu plus en avance. Mais ça reste encore effectivement un gros montant à absorber. Après, si on prend un tout petit peu de hauteur, on n'est pas les pires. L'Italie prévoit d'émettre encore près de 250 milliards d'ici la fin de l'année. Et même l'Allemagne ne sera pas en reste, hein, malgré sa rigueur budgétaire de fer, elle va devoir encore faire placer sur les marchés environ 200 milliards. Donc c'est encore beaucoup d'argent que les investisseurs et le marché vont devoir absorber en matière de dette d'État européenne.
Alors, depuis le début de l'année, la demande a été à chaque fois plus qu'au rendez-vous. Hein. Chaque émission obligataire souveraine en Europe a été largement sursouscrite. Est-ce que, compte tenu des montants qui doivent encore être placés et émis d'ici la fin de l'année, vous pensez que la demande sera autant au rendez-vous et que du coup les taux resteront calmes, ou au contraire, vous pensez que la demande va se tarir et du coup les taux peut-être repartir à la hausse?
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer une réduction de la demande ou une augmentation d'ailleurs de la demande. Vous avez raison, la demande a été au rendez-vous. Mais bon, les derniers développements, par exemple sur la France, ont provoqué un petit écartement de rendement entre la France et son homologue allemande, par exemple sur la question de la rigueur budgétaire avec le dérapage du budget. C'est pas colossal, hein, on est un demi point de pourcentage d'écart entre l'OAT française et son homologue allemande. Oui. C'est en gros la moyenne sur les 10 dernières années, hein, donc c'est pas fou, mais c'est effectivement une crainte sur l'avenir, sur la demande des investisseurs, parce que vous avez Moody's, une des agences de notation, qui s'est déjà exprimée sur le fait qu'elle sentait fortement improbable la capacité du gouvernement français à atteindre les 2,7% de déficit budgétaire en 2027 comme il a en tête. Et Moody's, comme sa consoeur S&P, vont revoir la note de la France, enfin tout du moins vont revisiter le cas français en avril et en mai. Donc c'est clair que les investisseurs vont garder ces dates-là dans un viseur, mais pour l'instant les marchés sont relativement calmes sur ça.
Effectivement, et vous nous avez préparé là ces émissions de dette encore massives à venir d'ici la fin de l'année, mais pas que de la part de la France, même l'Allemagne. Vous nous disiez 200 milliards de levée de dette d'émissions obligataires encore à venir de la part de l'Allemagne malgré son orthodoxie budgétaire. Et il n'y a pas que la France, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir accompagné, Yannick Lopez, depuis Ofi Invest AM. Le CAC 40 est en hausse, plus 0,1%. C'était la famille. Merci Sabrina.
Merci Guillaume.
Et cet article consacré effectivement à l'ex-SES Imagota qui cartonne en hausse de 10% le titre. Il est consultable, cet article, sur bfmbourse.com.
Plein d'autres, hein, Trigano.
Et beaucoup d'autres. Trigano aussi, oui.
Trigano, Soitec.
Ouais, 9% de hausse Trigano aujourd'hui après sa publication. Ah, vous y avez consacré aussi un article. Il est en ligne aussi.
Il est en ligne aussi.
Merci beaucoup.
La patrouille nous rattrape.
Ouais, là, on tire sur l'ambulance là.
Ah oui.
C'est Fabien là qui se fait plaisir. À chaque fois qu'on est un peu on est très en retard, il est 17h. Là, il se fait plaisir et il nous rappelle. Et il a bien raison. Merci beaucoup Sabrina. Bertrand, vous restez avec nous. Le club à suivre juste après la pause. On se retrouve dans 1 minute 30. À tout de suite sur BFM Business, BFM Bourse vous accompagne jusqu'à 18h.